De retour, ici François Beauregard à Sans détour. Nous allons maintenant parler d'une lettre ouverte qui a été récemment publiée par des parents et des organismes de défense des droits des personnes vivant en situation de handicap. Et cette lettre était adressée à prime abord au gouvernement, au ministre et à la, plus particulièrement au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Montréal, Centre-Sud. Alors, j'ai au bout de la ligne avec nous maintenant Mme Delphine Ragon, qui est coordonnatrice de PARDI, Parents pour la déficience intellectuelle. Bonjour, Mme Ragon.
Et j'ai bonjour.
Aussi, bonjour. Et nous avons également Mme Danielle Godette, qui est mère de deux adultes qui vivent à des situations de déficience intellectuelle. Et Mme Godette, vous aviez vous-même, je pense, écrit une lettre récemment pour dénoncer une situation qui est vraiment devenue très, très lourde.
Oui, tout à fait.
Et parlez-nous d'abord de ce qui vous a motivé, entre autres, l'une et l'autre, d'envoyer cette lettre ouverte aux médias, je pense, il y a une semaine, 10 jours. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire du CIUSSS?
Ce sont les enfants qui sont en hébergement dans deux endroits différents, dans des ressources intermédiaires qu'on appelle. Vu que quand ils sont en hébergement, ils appellent ça un service. Alors, s'ils vont travailler, ce qu'on appelle travail pour eux, là, nous, on n'appellerait pas ça du travail pour nous, mais pour eux, c'est vraiment important, c'est du travail. Et ils n'ont pas droit à ça quand c'est des personnes qui sont hébergées, à moins vraiment d'avoir des gros problèmes de comportement. Parce que là, on priorise d'abord les familles naturelles qui ont leurs personnes à la maison. Et on priorise aussi les listes d'attente. Et les autres, vu qu'ils sont en hébergement, ils ont déjà un service. Alors, je suis pas mal frustrée de ça. Moi, mon fils, il n'arrête pas de me réclamer « Maman, quand est-ce que je retourne travailler? Maman, quand est-ce que je retourne travailler? » J'ai fait cette lettre-là. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques semaines, là, il y a eu une crise de comportement. Qui peut avoir quand même occasionnellement, de moins en moins souvent, de moins en moins long, de moins en moins lourd, comme on pourrait dire. Hein. Suite à ça, c'est que la ressource intermédiaire où il habite, ils ont donné deux choix. Soit qu'on augmente la médication, soit qu'on on demande un déménagement.
Oh!
Alors, c'est pas facile à prendre comme décision, là.
Oui, je comprends. Deux choix qui sont ni l'un ni l'autre digestibles, va dire ça comme ça. Et ça, c'est depuis le début du confinement en mars dernier. Donc, il y a eu cet arrêt de service. Je pense, Mme Ragon, qu'il était question, dans votre lettre ouverte, de plus de 450 dossiers fermés.
Oui, absolument. 450 dossiers fermés dans un moment où on est dans un vide total de services, où les familles ou les proches, d'ailleurs, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle doivent compenser tout le manque de soutien et de services du réseau actuel et doivent chercher des solutions pour pallier à toutes les problématiques en fait qui sont engendrées par les coupures de services, l'attente de services, les fermetures de dossiers et j'en passe. Et c'est dans ce moment-là qu'on dit que le Centre-Sud décide de fermer 450 dossiers. Les raisons des fermetures, on les a pas nécessairement parce qu'on les a demandées, mais on n'a pas encore de réponse à cette question-là. Mais c'est inacceptable de fermer des dossiers dans un contexte de vide de service total et de familles qui sont de familles et de personnes déficientes intellectuelles qui sont comme, je dirais, au bord du gouffre.
Parce que quand on dit dossier fermé, est-ce que ça veut dire simplement que le système prétend qu'il n'y a plus de problème?
Exactement. Ce que ça veut dire dossier fermé, c'est votre enfant, votre adulte, parce que quand on dit enfant, ça peut être des adultes, ou votre proche n'a pas de besoin de réadaptation estimé. Tout va bien. Souvent, ce qu'on dit aux familles, c'est vous êtes une famille merveilleuse. Vous êtes en mesure de vous occuper de votre personne proche. Vous faites très bien les choses avec. Alors la situation de Daniel est un peu différente parce que il y a un contexte d'hébergement associé, mais là on va parler peut-être des familles, leur milieu, qui ont leur enfant à la maison. et on leur dit tout d'un coup, vous êtes des familles formidables. Quand vous aurez besoin de nouveau de nos services, eh ben, refaites une demande, une ouverture de dossier. Sauf que si c'était si simple, refaire une demande d'ouverture de service, ça demande de repasser par le guichet d'accès au service. Et là, on est sur des mois et on retombe en liste d'attente. Donc, voilà, oui, c'est un vrai drame.
Quelqu'un qui a eu droit au service pendant des années, brusquement, son dossier est fermé. C'est comme s'il n'y avait aucune mémoire dans le système administratif de son cas et tout reste à prouver à nouveau. Il faut remonter la côte comme si on partait de zéro.
Exactement.
Ouh. Ouais, ben, je peux comprendre le pourquoi de votre lettre ou de du poids. Et en même temps, il n'y avait pas de message comme quoi, après le confinement, une fois que la pandémie sera du passé, nous allons reprendre la balle au vol. C'est simplement une question de limitation de ressources. Ces dossiers-là sont fermés même si la pandémie n'existait plus?
Ces dossiers resteront fermés même si la pandémie n'existe plus, à moins qu'il y ait une nouvelle demande de service de la part des familles. Et là, on parle de ceux qui ont des familles. Hein. Oui, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Mais les enjeux sont nombreux. Là, on parle des fermetures de dossiers. Mais il y a également le très, très peu soutien des intervenants du SUS au niveau des familles. On a parlé dans notre lettre ouverte de 2 appels par mois, mais c'est des fois beaucoup moins. On a des familles qui n'ont pas du tout été appelées depuis la première vague, ou sinon des appels de courtoisie. Un appel de courtoisie n'étant pas, en tout cas, de notre point de vue, un service rendu. On a des familles, par contre, qui ont des suivis. Oui, du SUS Centre-Sud, parce que il y a des problématiques plus complexes. Les suivis qu'on leur offre, en fait, ce qu'on leur demande aux familles, c'est de devenir un petit peu les intervenants du moment de leurs enfants, de remplir des grilles d'observation de comportement que ça ne devrait pas être aux familles de remplir, et pour évaluer les comportements, puis pouvoir répondre aux besoins, sauf qu'il n'y a pas de service en arrière.
Oui, puis on peut penser, comme Mme Godet, vous le disiez tout à l'heure, que dans un contexte de confinement, là où rien n'est normal, où rien n'est comme d'habitude, bien, c'est relativement anxiogène et des personnes qui ont des situations de déficience intellectuelle peuvent avoir de la difficulté à composer avec un environnement très restrictif et il y a une hausse du stress et des difficultés oui. comportementales qui viennent même à des gens qui, au début de la pandémie, semblaient ne pas être en situation de difficulté, bien, ils finissent par le devenir, étant donné le contexte.
Allez-y, madame. Vas-y, Delphine.
D'accord, merci Daniel. On vit tous des situations plus ou moins. On n'a pas besoin d'avoir une déficience intellectuelle ou d'être un parent ou proche d'une personne déficiente intellectuelle pour vivre en ce moment des choses plus compliquées dans nos vies que ça l'était avant. Mais on est plus outillés peut-être pour être en mesure de comprendre ce qui nous arrive et de pouvoir trouver des réponses, en tout cas, ou des solutions. Mais là, ce sont des gens qui sont confrontés on parlait aussi de ça dans notre lettre ouverte, du pas de reprise d'activité dans les installations des SUS. On parle d'activité de jour, on parle de plateau de travail, on parle de stage d'intégration au travail, comme c'est le cas dans la réalité du fils de Daniel. Les SUS nous parlent de 50% de reprise d'activité. On pourrait dire que c'est déjà 50% dans une compréhension du contexte, mais dans ces 50%, ce qu'il faut se dire, c'est que 50% des personnes qui reprennent ne reprennent pas les services qu'elles avaient avant. Je vous donne un exemple très concret. Quelqu'un qui avait des services d'intégration au travail avec le SUS, 5 jours semaine, se retrouve à avoir une demi-journée semaine pour laisser la place aux autres qui doivent aussi être desservis et notamment des personnes qui, depuis des années, sont sur liste d'attente. Donc, c'est ça la reprise des services actuels et évidemment que dans ce vide-là, ça amène une désorganisation pour les personnes.
Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'est entrepris entre des gens comme vous qui devaient vivre la situation sur le terrain, qui représentent les personnes qui vivent ces situations et d'autre part, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Est-ce qu'il y a eu un dialogue qui s'est amorcé suite à votre lettre ouverte?
En fait, pas suite à notre lettre ouverte, mais de longue date et on est en contact avec eux assez directement et évidemment depuis le 13 mars et la première vague également. Nous, par exemple, à Pardy, via un comité particulier, on rencontre les directions des 5 CHUS à peu près aux 2 mois. sur les 5 CHUS à Montréal, il y a 4 CHUS qui sont des services qu'on appelle de deuxième ligne, c'est-à-dire plus spécialisés, et dont la direction du CHUS Centre-Sud, qui est le CHUS le plus problématique, c'est aussi le CHUS qui a le plus grand territoire à desservir. Et oui, on a fait remonter ces enjeux et dans ces rencontres-là et au quotidien, mais la réponse reste la même. Et souvent, c'est renvoyé en fait au service communautaire.
D'accord. Et le communautaire doit reprendre la balle au rebond.
Exactement. Et c'était déjà le cas. Il faut savoir aussi que s'ils sont dans cette difficulté-là pour donner les services actuellement, c'est que la pandémie, elle a un peu bon dos pour beaucoup de choses. Mais c'est que ça fait des années que les CHUS, et ce CHUS en particulier, délestent les services aux communautaires via des ententes de services. Donc, ils ont finalement très, très peu de services qu'ils ont gardés en interne, et dans une situation comme celle-ci, les milieux communautaires qui devraient être uniquement des services complémentaires et non pas des services qui donnent des services à la place des services publics, peuvent pas répondre dans un moment comme ça, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts et qu'ils ont, eux, pour le coup, repris quand même la plupart de leurs services, même dans les contextes de distanciation et règlements reliés à la zone rouge. C'est ça la difficulté face à laquelle ils sont confrontés, c'est le délestage des services qu'ils font depuis des années, et aujourd'hui, dans le peu de services qui leur restaient, ils sont en mesure de rien proposer. Mais s'il y avait que le manque d'activité, c'est qu'il n'y a rien qui est proposé autre, même en termes de suivi psychosocial ou de soutien social. Les familles ont besoin et les personnes ont besoin d'un filet social fort. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien.
Donc, évidemment, il est question de pandémie, mais pré-pandémie, la situation était déjà critique, et la situation actuelle, le COVID-19, n'a fait qu'exacerber quelque chose qui était déjà difficile et où il y avait déjà une tendance à la réduction de services. Madame Godet, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé depuis le mois de mars. Peut-être précédemment, vous aviez déjà remarqué que ça devenait de plus en plus difficile.
Oui, c'est de plus en plus difficile. Comme Delphine disait, ils essayent d'envoyer beaucoup les gens dans les organismes communautaires. Et il n'y a presque plus d'organismes communautaires qui font la défense de droits parce qu'ils, maintenant, ils donnent des services parce que le réseau le fait pas. Et ça devrait être au réseau de s'occuper de nos personnes. Ça devrait pas être le communautaire. Là. Comme Delphine disait, c'est pour des services de loisirs, oui, mais pas pour des services de ce qu'on appelle travail. Là.
Oui, travail, hébergement ou des choses essentielles à la vie, là.
Eux autres, moi, en tout cas, ce qui me choque aussi beaucoup, c'est que ils ont l'ordre du ministère de liquider, là, j'emploie leur terme, liquider les listes d'attente. Alors, en faisant ça, en laissant les personnes en hébergement parce qu'ils ont les services dans leurs ressources, ça leur donne la chance de liquider un peu des personnes de la liste d'attente. Alors, ils répondent au ministère.
Ça paraît bien sur papier, mais dans la rue, c'est pas la même chose. Est-ce que d'autres, parce que là, on parle du Montréal-Centre-Sud, mais évidemment, cette situation-là n'est pas unique à Montréal-Centre-Sud ou même Montréal dans un sens plus élargi. Vous avez eu des contacts avec d'autres personnes à travers la province. Les signataires de votre lettre, de toute façon, il y avait des organismes pan-québécois. Ce n'est pas qu'au CIUSSS de Centre-Ville qu'il y a des coupures.
Non, ceci dit, pour rencontrer, comme je vous l'ai dit tantôt, régulièrement les cinq directions des CHUS, c'est quand même le CHUS qui est dans l'état le plus navrant en termes de vide de services, versus les trois autres CHUS qui ont des services également de spécialisés, donc qu'on appelle de deuxième ligne. Ceci dit, c'est vrai qu'à travers la province, nous, on est un organisme pardis, on couvre le territoire de Montréal. Fait qu'on est beaucoup moins en lien avec les enjeux de l'ensemble du Québec, mais comme organisme famille, puisque nous, on est un organisme famille, on a reçu depuis le 13 mars, ce qui nous arrivait jamais, des appels ou des courriels tout le Québec.
Hors de votre territoire. Donc,
Tout le Québec pour nous parler de l'état de situation qui est quand même... alors, chaque territoire a ses enjeux différents. Le Montréal est très, très spécifique. Les régions, chaque région aussi a ses spécificités. Mais tous les parents nomme le manque total de services, d'activités, de milieux de vie, d'hébergement adéquats en termes de qualité d'accompagnement. Les enjeux sont communs.
Je vous remercie beaucoup. Mesdames, je m'excuse, nous n'avons pas plus de temps pour ce sujet qui en mériterait d'être reparlé, d'être rediscuté. Il faut suivre ça de près. Nous avions le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Delphine Ragon, coordonnatrice de PARDI, Parents pour la déficience intellectuelle, ainsi que Mme Danielle Godet, qui est mère de Yannick et Marie-Josée, qui sont des adultes qui vivent tous les deux avec des déficiences intellectuelles. Je vous remercie beaucoup, mesdames, et on va faire un suivi, on va se reparler de ça, j'en suis sûr.
Merci.
Ça marche, merci.